Voilà, on va ce matin prendre le temps de méditer la dernière prière de Jésus pour ses disciples. On va le faire en plusieurs fois. Et donc, on va ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Et ce matin, on va s'arrêter au verset 1 à 8. Je vais d'abord lire le texte. Donc Jean 17. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées, reçues, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes ici dans la dernière semaine de la vie de Jésus. Dans l'évangile de Jean, on a déjà pu traiter certaines choses les derniers temps. Dans l'évangile de Jean, il y a en fait deux parties. Il y a la première partie de l'évangile qui va des chapitres 1 à 12, où Jésus manifeste qu'il est le Christ, l'envoyé de Dieu par différents signes. Vous vous rappelez, on a vu les sept signes, les sept miracles qui attestent que Jésus n'est pas simplement un homme, mais qu'il est le Fils de Dieu. La première partie de l'évangile de Jean, on l'appelle le livre des signes, justement, parce que c'est là que Jésus démontre par les miracles qu'il fait qui il est. La deuxième partie commence à partir du chapitre 13, et c'est vraiment une partie différente de la première. Jésus est seul avec ses disciples et il prépare son départ. On appelle cette deuxième partie le livre de la gloire, parce que Jésus nous montre de façon plus intime, de manière plus intime, qui il est. Il est seul avec les siens. Le but de tout l'évangile de Jean, eh bien, c'est que nous croyons que Jésus est le Christ et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle par lui. On sait que malgré les signes que Jésus a produits, en fait, peu de monde a cru. Il y a eu un certain nombre de personnes qui l'ont suivi, mais Jésus va se concentrer avant son départ avec le petit groupe qui était avec lui, la minorité, les 12 qui l'ont suivi et qui l'a appelé. Pierre a confessé dans Jean 6, verset 69, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Donc quelques hommes seulement, au temps de Jésus, ont cru, ont vu qui il était. Et c'est avec ces hommes-là qu'il va passer les derniers moments de sa vie. Alors, je vais juste brosser un tableau rapide des quatre chapitres qui précèdent le chapitre 17, où Jésus prend le temps de prier avec eux, de prier pour eux. D'abord, il commence le temps qu'il va passer avec ses disciples par une leçon de choses, en quelque sorte. Il leur donne un exemple de ce qu'ils devront vivre ensemble. Jésus prend le temps de laver les pieds des disciples. Vous vous rappelez de cet épisode au chapitre 13. Alors qu'il était Seigneur, il se montre à eux comme un serviteur et il prend la place d'un esclave, de celui qui, dans la maison, accueillait les invités et revêtait le tablier d'esclave pour laver les pieds de ses disciples. Et donc il leur dit, en quelque sorte, que c'est là ce qu'ils devront vivre ensemble. Ils devront apprendre à se servir mutuellement, à s'aimer, au point d'être prêts même à être comme des esclaves les uns pour les autres, des serviteurs. C'est la première chose qu'il a faite pour marquer les esprits et leur montrer dans quel esprit, dans quel style, quel est le style de vie qu'ils devront adopter les uns envers les autres. Ensuite, au chapitre 14, il leur promet que s'ils partent, ils ne seront pas seuls, parce qu'il va leur envoyer son esprit qui sera avec eux, qui sera en eux. Jusqu'à présent, Jésus était avec eux, maintenant il sera en eux. Il viendra habiter lui-même par son esprit dans leur cœur. Et c'est ce qui fera qu'ils seront des êtres nouveaux et qu'ils seront des témoins de Jésus. Dans le chapitre 15, il leur donne le secret de la relation qu'ils auront avec eux. Comme je l'ai déjà dit, ce secret se résume en un mot, demeurer. Demeurer, habiter en moi et je demeurerai en vous. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour vivre la vie chrétienne. Il s'agit de rester proche de Jésus, de vivre dans une relation de transparence, de vérité avec lui. Demeurez en moi et moi, je demeurerai en vous. Dans le même chapitre, il avertit les disciples que dans ce monde, leur vie ne sera pas facile. Comme Jésus a rencontré l'hostilité du monde, les chrétiens, ses véritables disciples, connaîtront aussi l'hostilité et la persécution. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jésus va jusqu'à dire, on vous exclura des synagogues, des lieux de culte officiels, et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. La parole de Jésus s'est largement réalisée. Au premier temps, pendant 3 siècles, l'Église a été sous le feu de la persécution et elle continue à l'être aujourd'hui. Nous devons savoir que nous sommes dans un monde qui ne reconnaît pas Jésus et qui persécute tous ceux qui veulent témoigner de lui. Et puis, enfin, il les prévient que bientôt, ils ne le verront plus parce qu'il sera retourné vers son Père, mais qu'après être parti, il reviendra un jour les chercher. Et donc, après avoir donné tous ces éléments, Jésus ne peut pas quitter ses disciples sans prier une dernière fois pour eux. Et c'est cette prière, donc, cette prière dans son intégralité qui nous est rapportée dans Jean 17. On sait que Jésus a beaucoup prié pour ses disciples, mais on ne sait pas toujours ce qu'il a formulé, ce qu'il a demandé. Et on pourrait dire que la dernière prière de Jésus, c'est un peu comme son testament pour eux. Elle porte cette prière une dimension particulière parce qu'elle nous montre les choses importantes qui sont au cœur de Jésus pour ses disciples. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains temps. Les choses importantes qui sont dans le cœur de Jésus. Pourquoi il prie pour nous particulièrement. On peut appeler les disciples les héritiers de Jésus. Parce que c'est eux qui vont poursuivre ce que Jésus a commencé. Ils vont prolonger son œuvre. jusqu'à son retour. Transmettre ses paroles, son témoignage, pour que le monde sache qui est Jésus. Et on ne le réalise pas aujourd'hui parce que nous sommes nombreux comme chrétiens dans le monde, mais prenons conscience qu'il y avait ici 11 personnes. 11 personnes à qui Jésus va confier la charge d'annoncer l'évangile au monde entier, de répandre ce témoignage et cette parole. Et on voit donc, quand on prend conscience de ça, la valeur, l'importance de la prière de Jésus. Ce matin, on va s'arrêter à identifier qui sont ceux pour qui Jésus prie. Et dans les versets 6 à 8, il y a 5 traits particuliers, 5 traits d'identité, on pourrait dire, qui caractérisent ceux qui sont appelés ses disciples, ceux pour lesquels il prie. Alors la première chose, qui sont les disciples? C'est étonnant. Au verset 6, il est dit « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné. Jésus s'adresse à son Père et il dit, pour parler des disciples, qu'ils sont des dons du Père au Fils. Je ne sais pas si vous réalisez cela, si vous vous identifiez comme un don de Dieu à Jésus. C'est comme ça que Jésus présente ses disciples. Quand on lit l'Évangile, on a l'impression, et Jésus le dit plusieurs fois, que c'est Jésus qui choisit ses disciples. Il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises, dans Jean 6, verset 70, il dit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ?» Dans Jean 13, verset 18, il dit « Je connais ceux que j'ai choisis. » Dans Jean 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Et encore plus tard, il dit « Je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » En fait, il y a deux réalités qui sont conjointes dans le fait que nous sommes devenus disciples de Jésus. La première chose, c'est que Dieu nous a choisis pour nous donner à Jésus. Et l'apôtre Pierre, dont on a lu une partie tout à l'heure de sa lettre, il commence sa lettre en disant « À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père. » Il y a quelque chose qui était antérieur à notre vie qui fait que nous sommes donnés à Jésus. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est quelque chose qui revient très souvent dans l'Écriture. Et pour comprendre ce phénomène, on peut penser à l'histoire d'Abraham, par exemple. Abraham, quand il a voulu que son fils ait une épouse, il a envoyé un serviteur pour aller chercher cette épouse, là où elle était. Et le but, c'était de donner une épouse à Isaac, son fils. Eh bien, c'est pareil pour nous. Dieu a envoyé son Saint-Esprit et il nous a convaincus que nous devions nous donner à Jésus pour lui appartenir. Le Père est le premier qui agit en nous pour nous donner à son fils. Et le deuxième acte, eh bien, quand on voit l'histoire d'Abraham, c'est que Isaac, quand il a vu l'épouse que le père était allé chercher pour lui, eh bien, il l'a choisie aussi. Hein ? Elle est devenue sa femme. Il l'a accueillie, il l'a aimée. Et c'est pareil pour nous. Dieu œuvre en nous. Il nous convainc par le Saint-Esprit qu'on doit se donner à Jésus. Et Jésus nous accueille. Nous sommes devenus ses bien-aimés, son épouse. C'est comme ça que Jésus appelle l'Église. Nous sommes donnés par le Père pour faire la joie et le plaisir de son Fils. C'est ça notre mission, notre statut, notre raison d'être, on pourrait dire, en tant que disciples. C'est comme des futurs époux qui sont donnés l'un à l'autre pour faire le plaisir l'un de l'autre, la joie. Et c'est pour ça que Jésus nous aime, parce qu'il nous a été donné par le Père. C'est le premier trait d'identité des disciples. La deuxième chose que Jésus dit par rapport aux disciples, c'est qu'ils sont sortis du milieu du monde. Ils sont sortis du milieu du monde. En fait, si nous sommes devenus chrétiens, c'est pas parce que nous étions différents des autres que nous avions plus de valeur, plus de dignité. Nous sommes sortis du milieu du monde. Notre milieu, c'était le monde dans lequel nous vivons toujours, mais nous sommes sortis de ce monde. Jésus le dit à plusieurs reprises que, en fait, le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous sommes nés dans ce monde, dans le train de ce monde. Et ce monde est dominé par trois choses, d'après Jean. Dans une de ses lettres, il est dit, il y a trois principes qui régissent ce monde. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Tout ce qui est dans ce monde est inimitié vis-à-vis de Dieu et en opposition à Dieu. Si Jésus dit que nous sommes sortis du milieu du monde, c'est pour nous dire que si nous sommes disciples de Jésus, c'est uniquement dû à la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous étions, comme je l'ai dit, des gens meilleurs, plus valeureux, qu'il y avait en nous quelque chose qui a attiré Dieu. Non, il nous a choisis par grâce, uniquement par la grâce. C'est un acte de sa bonté, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Éphésiens 2 le dit clairement. Et vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Vous viviez selon la façon de vivre de ce monde. Vous étiez soumis à l'esprit de rébellion qui domine ce monde. Vous étiez de leur nombre, mais Dieu, qui est riche en compassion, vous a fait grâce. Il vous a pardonné vos fautes à cause de Christ. Les disciples de Jésus sont là pour témoigner de la grâce de Dieu. Cette grâce qui est finalement offerte à tous les hommes, mais c'est à chacun de nous de recevoir ce salut. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, l'appel de Dieu qui nous appelle à être réconciliés avec lui au travers de Jésus. Rappelons-nous toujours toute notre vie que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Que si cette grâce n'était pas intervenue dans notre vie, nous ne serions pas meilleurs que les gens que nous voyons autour de nous, qui sont dominés par le mal, par leur convoitise, qui sont animés d'un esprit de rébellion contre Dieu. Donc c'est déjà un deuxième trait. Le troisième trait, Jésus le souligne dans le verset 6, « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés, Jésus insiste là-dessus, hein, et ils ont gardé ta parole. » Ils ont gardé ta parole. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est disciple de Jésus et un autre? Ben, on le voit dans tout l'évangile. Hein. Il y a un moment où les disciples s'accrochent à Jésus et à sa parole. Tu as les paroles de la vie éternelle. Beaucoup de gens ont suivi Jésus pour recevoir des choses, être guéris, être nourris, connaître les bienfaits de sa puissance. Mais ils n'ont pas gardé sa parole. Ils n'étaient pas prêts à obéir, à s'aligner à ce que Jésus demandait, à renoncer à leur vie propre pour devenir des disciples de Jésus. Le disciple, la différence, c'est que la parole de Jésus devient la norme et la vérité à laquelle il se réfère désormais. Et il suffit de parcourir les évangiles pour comprendre la place que doit avoir la parole de Dieu. Si nous ne vivons pas de la parole de Dieu, si nous ne marchons pas et si nous ne nourrissons pas de la parole de Dieu, eh bien, il faut se poser la question, est-ce que nous sommes disciples ? Je vais lire quelques versets. que vous connaissez déjà tous, qui souligne la valeur et l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un disciple. Jésus a dit, il a repris une parole lorsqu'il était tenté par le diable, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Qu'est-ce qui a fait que Jésus a pu résister au diable? À chaque fois qu'il a été tenté par une proposition du malin, il est écrit, il est écrit, il a vécu de la parole de Dieu. Il s'est appuyé sur ce que Dieu disait pour contredire la parole du diable. Et nous, nous avons besoin aussi d'ancrer notre vie, notre foi dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. Jésus a parlé de deux maisons qui sont, il a donné une parabole en parlant de deux styles de vie différents, une maison construite sur le sable, une maison construite sur le roc. Et il a montré que ce qui permet à la maison de tenir face aux tempêtes, aux vents qui vont essayer de la faire tomber, eh bien, c'est simplement les fondations. Et Jésus a dit, « Celui qui entend les paroles que je dis et qui les met en pratique a construit une maison solide qui tient debout face au vent et à la tempête. » Les fondations de notre vie doivent être dans la parole de Dieu. Pas simplement dans l'écoute, mais la mise en pratique. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend, qui la saisit, qui la prend pour lui. Et cette parole œuvre en lui, transforme sa vie et l'amène à porter du fruit. Dans Luc 11, versets 27 et 28, Jésus dit quelque chose d'étonnant. Une femme crie à Jésus, « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Quelle chance t'as eue, Marie, d'être la mère de Jésus ? Jésus répond, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Il y a quelque chose de plus estimable dans la bouche de Jésus que d'être simplement sa mère physique. C'est le fait de garder sa parole. Ça donne plus de joie encore que cela. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. La parole de Dieu, le fait de l'écouter, de la croire, c'est ce qui nous délivre du jugement de Dieu. Parce que la parole nous amène à croire en celui que Dieu a envoyé pour nous donner la vie éternelle. Celui qui croit en ce que je suis est passé de la mort à la vie. Il n'a pas à craindre un jugement, puisque Jésus a été déjà jugé à sa place. Encore quelques versets rapides. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Rien que le fait de recevoir la parole de Dieu nous purifie déjà. Et dans sa prière, Jésus prie encore dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà, on pourra encore ajouter beaucoup d'autres versets, mais ça montre ce que Jésus dit quand il identifie les disciples à ceux qui ont gardé la parole. La parole, elle est au cœur de notre vie. C'est sur elle que notre foi doit s'ancrer, s'enraciner, et c'est par elle que nous vivons. La parole de Dieu nous purifie, nous nourrit, nous conduit à porter du fruit, nous donne les armes pour résister au mal. Donc, les disciples vivent de la parole de Dieu, ils doivent la méditer, et c'est un vrai bonheur, c'est vrai, de prendre le temps chaque jour de se plonger dans la parole, de se nourrir d'elle. On a besoin de cela. Un quatrième trait de caractère, au verset 7, il est dit « Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Ils savent. Les disciples de Jésus sont habités par des certitudes et des assurances. C'est aussi ce qui distingue un vrai croyant d'un faux. Le faux croyant est toujours dans l'espoir vague qu'un jour, peut-être, il sera avec Dieu. Le vrai croyant sait, il sait. Il sait parce qu'il connaît la valeur et le poids de ce que Jésus a fait pour lui. Nous sommes appelés à témoigner de certitude de ce que nous savons à cause de Jésus. Et c'est vrai que parfois, les chrétiens peuvent être pris un peu pour des gens présomptueux. Hein. Comment ça se fait que vous savez, vous êtes sûr, vous êtes meilleur que les autres? Non, parce que c'est le Christ qui est notre fondement, c'est pas nous. « Je vous ai écrit ces choses, dit Jean, dans sa première lettre, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il n'a pas dit « afin que vous espériez vaguement, hein, mais que vous sachiez. » Et je crois que c'est quelque chose aussi de fondamental de nous nourrir, de nous, oui, d'intégrer dans nos vies les certitudes que nous donne la parole de Dieu. La Bible nous parle de l'assurance de notre salut. Nous savons où nous allons. Nous savons qui est Jésus. Et l'apôtre Paul, quand il prie pour les Éphésiens, il dit « Je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance s'attache à votre appel et quelle est la richesse de l'héritage qu'il réserve aux saints. » Je crois que le but du diable, c'est de troubler notre esprit pour que nous doutions, que nous soyons perturbés à cause des faiblesses qui sont dans nos vies et que nous oublions tout ce que nous avons en Christ. Nous pouvons avancer, et c'est ça qui fait que les chrétiens ont su résister aussi à la persécution, c'est qu'ils savaient, ils avaient des certitudes au fond d'eux. Pas de vagues espoirs. On ne meurt pas pour un espoir vague. On meurt à cause de certitude. Je vais vous raconter ce que j'ai raconté jeudi soir à la réunion de prière. La semaine dernière, j'étais à Châlons avec une mission qui envoie des missionnaires un peu partout, au Togo, au Sénégal. Et on était en direct avec un frère, un chrétien togolais, qui s'est installé dans le nord du pays. Lui, il vient du sud. Et le sud et le nord, c'est, je dirais pas c'est le jour et la nuit, mais c'est deux régions vraiment différentes, le Togo. Le sud est surtout chrétien, le nord est musulman. Et les gens du nord n'aiment pas les gens du sud. Et lui vient du sud. Et il venait du sud pour créer une école dans le nord, dans un milieu musulman. Il est arrivé dans une ville... Il a fait part aux habitants de son projet. Et les habitants, il les a invités à une réunion. Et les habitants sont venus armés parce qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec ce bonhomme-là. Il vient du sud pour leur inculquer sa vision des choses, leur apporter sa foi. Hein. Et donc, la réunion était très, très tendue et agitée. Et à un moment, il a prié, il a dit « Seigneur, comment je peux faire pour... Tu m'as envoyé, je le sais. Comment est-ce que je peux faire pour faire passer ce projet à cette foule-là qui est devant moi ?» Et puis il a eu une inspiration et il leur a dit « Voilà, je vous donne un an. Confiez-moi vos enfants pendant un an. Si vos enfants n'ont pas changé pendant un an, eh bien vous aurez le droit de me tuer. » Il avait une certitude dans son cœur. Il savait pourquoi il était là. Et au bout de 3 mois, ses enfants étaient tellement différents par le soin qu'il a pris d'eux que le chef de la tribu ait dit « Comment tu fais? Qui tu es? Pour transformer nos enfants comme tu l'as fait ?» Et non seulement il a pu créer une école, mais il a fait 5 écoles, un collège, un lycée, et continue dans toute cette région à apporter l'évangile. Nous avons un héritage, nous savons à qui nous appartenons. Et à cause de l'espérance qui est dans notre cœur, eh bien, on est prêt à mourir pour ça et à apporter Christ. L'apôtre Paul dit « Nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Nous savons, dit l'apôtre Paul. Et si vous voulez avoir une liste des choses que nous savons, je vous encourage à lire la première épître de Jean, où il utilise souvent ce terme, nous savons. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Nous savons que Dieu nous écoute. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne pèche pas. Il utilise beaucoup, nous savons. Alors je te pose la question ce matin, est-ce que ta foi reflète les certitudes que le Christ donne? Est-ce que ta foi s'accroche à ces certitudes? Ne regarde pas à qui tu es, à tes fragilités, tes faiblesses. Considère qui est Jésus pour toi, ce qu'il a fait pour toi, l'engagement de Jésus à ton égard. Le salut qu'il nous a offert n'est pas conditionnel. C'est quelque chose de certain. Ça repose sur sa fidélité, son engagement. Il nous a rachetés pour lui et il nous gardera jusqu'au moment où nous serons avec lui. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie, dit Jean. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est la seule différence. C'est la ligne de démarcation. Celui qui a reçu Jésus a la vie. Celui qui ne l'a pas reçu, il est en dehors de la vie. Il n'a pas d'espoir. Et le dernier point qui caractérise les disciples de Jésus, c'est ce qui est dit au verset 8. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Les disciples de Jésus n'ont aucun doute quant à l'identité réelle de Jésus. On devient chrétien le jour où on est convaincu que Jésus est bien le Christ, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu pour nous, pour moi, pour mon salut. L'apôtre Pierre est le premier qui a confessé qui est Jésus, vous le savez, alors que Jésus faisait un sondage d'opinion auprès de ses disciples. Qui dit-on que je suis? Eh bien, certains disent que tu es un prophète, comme Jean-Baptiste, comme Élie, comme Jérémie. Et vous? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre a répondu, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas de toi-même que tu as compris cela, c'est le Saint-Esprit, c'est le Père qui t'a révélé cela. En fait, quelle est notre mission dans ce monde? Notre mission principale, Jésus l'a dit dans Actes 1, verset 8, c'est d'être les témoins de Jésus. Nous sommes ceux qui sommes chargés de dire au monde que Jésus est bien le Christ, celui qui avait été prophétisé, annoncé, et qui est venu de la part de Dieu pour nous racheter. C'est notre mission essentielle dans ce monde. Et je crois que ce qui est extraordinaire, c'est que malgré les siècles qui ont passé, ce témoignage est parvenu jusqu'à nous. Et nous sommes dépositaires de ce témoignage, nous sommes responsables de le transmettre à ceux qui viennent après nous. Il est le Christ. Et inviter les gens qui sont autour de nous à découvrir qui est Jésus. Alors comment devient-on chrétien? Eh bien, d'abord, on doit apprendre à connaître Jésus. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que les évangiles ont été écrits. Découvrez Jésus à travers les évangiles. La deuxième chose, c'est qu'on doit être ouvert à Dieu pour qu'il nous convainque en lisant les évangiles de qui est Jésus. Une fois que nous sommes convaincus, nous devons le dire, le confesser, l'annoncer aux autres. Nous sommes responsables d'être ses témoins dans ce monde, jusqu'à la fin des temps. Alors ce matin, on a juste vu l'introduction de la prière de Jésus, mais ça nous permet d'identifier qui sont les disciples de Jésus, les héritiers de Jésus dans ce monde. Et je rappelle ces 5 points. Nous sommes des dons du Père au Fils. Nous sommes là pour, en quelque sorte, faire la joie de Jésus dans ce monde. Nous sommes les bien-aimés de Jésus dans ce monde. Nous sommes sortis du milieu du monde, nous sommes sauvés par grâce. Et nous sommes là pour témoigner auprès de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus que nous n'étions pas meilleurs qu'eux, mais que c'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. L'amour de Dieu, l'amour immérité de Dieu qui nous a sauvés au travers de Jésus. Nous sommes ceux qui gardent la parole de Jésus précieusement. Nous vivons par elle et nous cherchons à la mettre en pratique. C'est le 3e signe. Nous sommes des personnes remplies de certitude et d'assurance parce que nous sommes convaincus de la richesse du poids de ce que Jésus a fait pour nous. Notre foi repose non pas sur ce que nous sommes capables de produire et de faire, mais sur ce que Jésus a fait pour nous, les engagements de Jésus à notre égard. Et enfin, nous sommes des témoins, nous sommes là pour, en quelque sorte, défendre l'identité de Jésus, la proclamer au monde. Nous sommes convaincus que Jésus est l'envoyé de Dieu, qu'il est à la fois homme et à la fois Dieu. Et c'est pour ça que Jésus prie au début, vous avez remarqué, que le Père lui donne de retourner dans la gloire d'où il est venu. Jésus a quitté pour un temps le ciel, il était éternel. Il est devenu homme pour accomplir sa mission de sauveur et il est retourné. Révèle-toi-même ma gloire auprès de toi, la gloire que j'avais avant d'être venu. Alors qu'on puisse, pour notre part, participer à la mission que les disciples ont reçue d'être les héritiers de Jésus, et que nous puissions être ses témoins, que nous puissions garder sa parole et témoigner de la grâce par laquelle nous avons été sauvés. Voilà, on va prier.